On poursuit l'épître aux Hébreux et on est au chapitre 11 de l'épître aux Hébreux qui nous invite à imiter la foi de plusieurs personnes ordinaires qui ont eu une attitude de foi remarquable. Foi, évidemment, en l'Éternel. Parmi elles, Barak est nommé. Alors, il fallait quand même qu'on puisse savoir qui est ce Barak. Et donc, pour le savoir, nous avons lu ce texte dans le livre des Juges. Et plusieurs de personnages de l'Ancien Testament sont nommés dans Hébreux chapitre 11. Et c'est l'occasion peut-être de mettre un peu le focus sur l'un ou l'autre de ces personnages. Alors, on a déjà vu Gédéon, on voit Barak aujourd'hui. Et puis prochainement, on verra Samson et Jephté. Il y a des fans, je vois. Alors, le texte qui nous invite à nous arrêter sur ces personnes se trouve dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Donc, on va le lire. C'est au verset 32, Hébreux chapitre 11, verset 32, et la page 1373 pour les Bibles blanches. Et que dirais-je encore ? Le temps me manquerait, en effet, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Alors pourquoi ces personnes sont nommées ? Très certainement parce qu'elles étaient très renommées dans la culture juive de l'époque. Mais pour nous, c'est pas trop notre culture. C'est pas trop notre culture et on a bien souvent à nous rendre compte de la réalité vécue par ces personnes quand on lit ces textes bibliques qui ont 2000, 3000, là en l'occurrence on est plus vers plus de 3000 ans, d'écart avec nous. Et en fait, pour essayer de se représenter ce qui s'est passé dans le texte qui a été lu, le défi auquel Barak a été confronté m'a tout de suite fait penser à un fait de légende des charges de la cavalerie polonaise contre les tanks allemands. Et c'était au début de la guerre 39-45 à la bataille de Krojty. Même si la réalité n'était pas tout à fait ça, j'ai encore ces images dans les livres d'histoire où on voit les cavaliers comme ça face aux tanks allemands. En effet, Barak, avec ses 10 000 guerriers de plusieurs tribus d'Israël, n'était que de piètres fantassins face à 900 chars. Alors, ce n'est pas des tanks à l'époque. Les chars, c'est y a deux roues, il y a celui qui conduit le char, il y a celui qui a les armes, et un ou deux chevaux devant, ou chevaux aussi, s'il y en a un, ou deux chevaux s'il y en a deux. C'est comme on veut. Mais imaginez-vous, déjà rien que s'il y a un cheval et le char qui est lancé à toute vitesse, si vous êtes en face, rien que par la force de l'ensemble, il n'y a même pas besoin de combattre, vous vous faites exploser. Donc imaginez une armée de 900 chars. C'est un armada qui se met et, en route et c'était impossible à arrêter pour des piètres guerriers. Je rappelle qu'à l'époque, les guerriers, ce n'était pas une armée de guerriers, c'était des gens qui travaillaient, qui arrêtaient leur travail et qui disaient oui, il faut aller à la guerre, on va à la guerre. Quoi. Mais dans sa providence, Dieu a donné la victoire à Barak en provoquant un immense orage qui a fait déborder le torrent du Kizon. Et ça, vous le trouvez au chapitre suivant, Juges 5, les versets 20 et 21. Et les chars se sont enlisés et sont restés bloqués. Toute la supériorité est devenue un fardeau. Et donc, ils ont dû vite descendre et courir. Et c'est là où les chevaux et tout ça étaient tout à fait inutiles. Ça fait un peu penser à la cavalerie française enlisée à la bataille d'Azincourt face aux archers anglais. Tout l'armada reste bloqué et finalement, ils ont perdu toute leur supériorité. Toujours est-il, c'est facile de le dire maintenant que ça s'est passé, toujours est-il qu'il fallait avoir le cran de la foi en l'Éternel, d'avoir la victoire face à cette marée de chars. Avec des outils souvent qu'ils utilisaient comme armes, hein, toujours est-il qu'il fallait avoir la croix, la foi de croire qu'en descendant, dans sa providence, Dieu allait combiner toutes les choses pour qu'il puisse avoir le dessus sur cette armada de chars. Ça arrive à un moment de l'histoire où Israël est loin d'être le peuple qui montre l'Éternel. En effet, les exploits de la conquête de Canaan, comme Jéricho, sous la conduite de Josué, devaient être terminés par les tribus. Mais les tribus, au lieu de finir la conquête, ont préféré l'assimilation et sont tombées dans l'idolâtrie des religions cananéennes. Alors l'Éternel, qui avait passé un contrat avec Israël, tient les termes du contrat. Vous vous éloignez de moi, vous allez vers d'autres idoles, eh bien, je vous enverrai des nations étrangères qui auront le dessus sur vous. C'était le terme du contrat. Vous êtes attaché à moi, bénédiction et rayonnement autour de vous, pour toutes les nations qui sont autour de vous. Et donc, pendant 400 ans, s'ensuit des cycles comme ça, où Israël s'éloigne de l'Éternel, et là, visiblement, c'était le cas, et donc Dieu envoie des nations étrangères pour les dominer. Et ça dure pendant 20 ans. 20 ans, j'étais pas né, moi. Bon, je peux dire n'importe quoi, vous me croyez, quoi. 20 ans, ça fait long quand même, 20 ans. Hein. Et donc, Israël souvent crie à l'Éternel ou un juge se lève. Ici, c'est par le biais de Déborah que le signal est donné. Et l'Éternel suscite un juge pour délivrer Israël. Ici, c'est Barak. C'est lui, avec l'aide de l'Éternel, qui va délivrer de l'oppression qui a servi Israël. Et donc, c'est au travers de la bataille qu'on a lue. Et s'ensuit souvent une période de paix, plus ou moins longue, mais là, la paix qui sera derrière sera une paix de 40 ans. Et donc, on a dans le livre des juges ces cycles qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, et ça dure pendant 400 ans. Mais il y a trois types de personnes qui sont impliquées dans ces différents cycles, bien sûr l'Éternel, le juge et le peuple. Et si on regarde bien dans le livre des juges, la première histoire qui nous est racontée avec Othniel met l'accent sur ce que l'Éternel fait. Le deuxième juge, et, histoire avec les juges, c'est Éhoud, et là l'accent est mis sur ce que le juge lui va faire. Et là, dans celui qu'on vient de voir, c'est on voit l'accent qui est mis sur le peuple. Et on a plein de personnes qui sont citées. Déborah, Barak, Jaël et les 10 000 guerriers de Nephtali, Zabulon et d'autres tribus. Ce regard plus porté sur le peuple, où toutes les composantes sont impliquées, Déborah en tant que prophétesse est la porte-parole que l'Éternel utilise. Alors pour rappeler la parole de Dieu, elle était reconnue pour ça, hein, et pour dire la loi dans les jugements, dans les conflits entre les personnes en Israël. Mais là, elle est aussi appelée par Dieu à appeler Barak pour conduire le peuple contre Jabin et Sisera. Et c'est elle qui va donner le top départ du début de la bataille pour que dans sa providence, eh bien, l'orage arrive au bon moment où les soldats descendent pour affronter les chars de Sisera. Et c'est pour cette raison, très certainement, que Barak demande la présence de Déborah avec les gardiens d'Israël, tout comme d'autres juges, comme Gédéon, demanderont beaucoup de confirmations de la part de l'Éternel. Ils ne voulaient pas partir la fleur au fusil face à ce qui était insurmontable, mais ils voulaient que Dieu soit avec eux pour œuvrer face à l'insurmontable. Et ici, Déborah était le relais de Dieu pour annoncer la parole de l'Éternel. Alors certes, ça va lui coûter le prestige de ne pas avoir tué le général Hadar, c'est Yael qui l'aura, et on voit ici que c'est vraiment tout le peuple qui est impliqué dans ce troisième volet. Mais Barak a eu le cran de la foi. Barak a eu le cran de la foi d'avoir conduit le peuple pour affronter un ennemi insurmontable. Et c'est ce qui est souligné dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, toutes les autres personnes, la Bible n'en parle plus. Il n'y a que Barak pour lequel il en est encore fait mention dans le Nouveau Testament. Et je rappelle qu'il faut comprendre l'Ancien Testament toujours à la lumière de la victoire de Christ, de ce qui est écrit après la victoire de Christ, hein, à travers des épîtres notamment. Le chapitre 11, donc, de l'Épître aux Hébreux, nous cite en exemple la foi de Barak. Et, pour les premiers lecteurs de cet épître, l'invitation, c'était d'avoir le même cran de foi que Barak. Sinon, il ne serait pas cité en exemple. Hein? Alors, pratiquement, nous n'allons pas courir à l'assaut avec des fusils contre des chars d'assaut. Hein? Évidemment. Par contre, au fil du texte de l'Épître aux Hébreux, on voit que l'auteur invite à avoir le même cran de foi dans deux domaines. Et ces deux domaines, on les a vus précédemment dans l'Épître aux Hébreux. Le premier domaine concerne la personne et l'œuvre de Jésus. Dernier chant qu'on a chanté tout à l'heure. Je vous ai dit, vous croyez ce qu'on a chanté ? Hein ? Et ce que nous disent ces chapitres qui précèdent, il n'y a que lui. Est-ce que vous avez le cran de la foi de le croire? Est-ce que vous avez le cran de la foi de le dire, de le vivre, au milieu de beaucoup d'autres sons de cloche? Et l'Épître aux Hébreux nous dit que toute autre croyante, pratique, religion, même ce qui était préparatoire dans l'Ancien Testament, même les êtres célestes, sont rien du tout face à la personne de Jésus et face au salut parfait qu'il a accompli. Le deuxième domaine qui est exposé au fil de l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas d'avoir des coups d'éclat comme Barak, hein, mais d'avoir l'endurance de la foi, d'avoir l'endurance de la foi avec Christ. Et pour les premiers lecteurs de l'Épître aux Hébreux, c'était hyper concret. Après avoir connu les débuts spectaculaires, inaugurales de l'Église, qu'on voit dans le début du livre des Actes, hein, eh bien, ils sont maintenant dans une phase plus habituelle de la vie d'Église, à l'exemple de ce qui nous est plutôt montré à la suite du livre des Actes, ce que nous connaissons, nous, d'ailleurs, depuis lors. C'était moins fun, et puis la persécution était un peu plus forte. Persécution familiale, politique, au travail, religieuse, et cette persécution faisait gamberger l'une ou l'autre personne. Certainement des personnes qui étaient dans l'environnement de l'Église, pas encore à Christ, voyaient comme plus confortable de revenir au judaïsme. Et face à ces interrogations, certains croyants étaient peut-être déstabilisés. Alors l'auteur de l'Épître rappelle que Jésus et son œuvre n'ont pas d'équivalent et ne peuvent être comparés à quoi que ce soit. Rien ne soutient la comparaison face à Jésus et face à son œuvre. Et c'est dans ces moments particuliers qu'ils traversent où ils sont invités d'avoir le cran de la foi. Le même cran de la foi, pas pour aller face à des chars et des chevaux, mais de maintenir les vérités de la personne de Christ et d'avoir cette endurance. Alors nous, comme je dis tout à l'heure, il n'y a pas des chevaux qui nous attendent avec des chars et des archers ou des personnes à l'épée. Dans sa grâce, Dieu permet qu'on ne soit pas persécuté pour notre foi en Christ. Ce n'est pas le cas partout. Hein. Mais d'avoir une foi consistante, avoir le cran de la foi, comme Barak, pour réaffirmer les choses qui sont de Jésus, en Jésus, et qu'il a faites, cette invitation est la même que pour les Hébreux, ceux qui ont lu la lettre aux Hébreux. Si on regarde bien, notre foi est complètement sollicitée par plein d'oppositions, d'idées différentes. Plein d'infos, d'hypothèses, de théories, d'idées, de pratiques de vie, de regards sur l'identité et la valeur humaine, termes de priorité, hein, d'axe de vie. Tous ces aspects mettent la foi en Jésus sur le grill, voire même les évacue complètement. Et ce que nous invitent ces exemples de foi, c'est est-ce que l'on est certain, comme on l'a chanté tout à l'heure, est-ce que l'on est certain que personne n'est jamais à la hauteur de Jésus ? Est-ce qu'on en est certain ? On le chante le dimanche, ouais, c'est, on est entre nous, c'est tranquille. Hein ? Mais est-ce que c'est une réalité après, une fois qu'on n'est plus entre nous ? Est-ce qu'on a le cran dans nos têtes déjà de se dire oui, c'est sûr ? Est-ce qu'on a le cran de pouvoir le vivre autour de nous ? La nature de Jésus ? Personne n'arrive à la hauteur de la nature de Jésus. Complètement Dieu, complètement homme. Je ne connais nul équivalent. Sa sainteté, il n'a jamais péché. Toutes les personnes qui font de leur mieux sont touchées par le péché. En capacité, ben Jésus, c'est le Créateur. Forcément, tout ce que l'on voit autour de nous ne sont que la créature. Personne n'est à la hauteur de Jésus. Alors, si on n'est pas persécuté frontalement, comme les premiers croyants de l'Église, nous nageons bien souvent à contre-courant. Nous avons l'impression d'être tout petits par rapport au flot d'idées, de choses, de vidéos, de posts, etc., qui sont contraires à ce que nous présente la Bible. Mais ce que nous montre le texte qu'on a vu ce matin, c'est que Barak et ses compagnons étaient eux aussi tout petits face à cette marée de chars de guerre, de machines de guerre. La différence, c'est que Barak a cru la parole de Dieu qui était donnée par Déborah. Il y allait. Hein? Et ça a eu comme conséquence que la tendance a été inversée. Sommes-nous convaincus que ce que dit Dieu est vrai, capital et essentiel pour chacun d'entre nous et pour ceux qui nous entourent? Peut-être à nous d'inverser la tendance dans nos pensées déjà. Et finalement, ce n'est peut-être pas nous qui sommes à contre-courant. Est-ce qu'on le croit ça ? Ou est-ce qu'on est déjà dans la défaite en se disant que c'est nous qui sommes à contre-courant ? Malheureusement, c'est ceux qui ne connaissent pas encore Christ comme Seigneur et Sauveur qui sont dans un courant qui les emmène loin. Alors que déjà le Seigneur nous aide à être convaincus de ce que l'on chante, de ce que l'on lit quand on est entre nous. Mais quand on est seul, Dieu nous donne d'être convaincus, d'avoir cette foi solide aussi pour pouvoir ne pas être déstabilisé quand ben, on n'est plus entre nous et quand on est justement face à des personnes qui ont besoin de cet éclairage. Et puis que de cette foi, on puisse être source de proposition. Nous avons un message merveilleux. Soyons pas dans la défaite, mais dans la proposition. Hein. La foi en Dieu de Barak a inversé la tendance. Et il n'y a aucune raison que notre foi en lui, avec son aide, ne fasse pas de même. Alors croyons vraiment Dieu dans ce qu'il nous dit. Hein. Croyons-le vraiment. Qu'on se souvienne de ce cran de foi, cette assurance de foi qu'il a fallu à Barak pour descendre. Eh bien, c'était un homme ordinaire comme nous. Eh bien, on ne va pas être confronté aux mêmes circonstances. Mais ayons ce cran de foi. On est vraiment source de belles propositions. Et pas justement comme un idéal impossible à atteindre, mais comme la réalité à vivre de maintenant. Bien souvent, on se dit, oui, la foi, c'est un peu un truc, ouais, c'est beau. Mais ce n'est pas juste à contempler vaguement dans notre esprit, c'est à vivre maintenant. Pour que ce soit bon, ben, il faut en profiter maintenant. Je vais prier, si vous voulez bien. Seigneur, merci encore pour ta parole. Elle est des fois déroutante quand on la lit. Et quand on regarde de plus près, on voit qu'elle est vraiment d'actualité. Seigneur, merci pour cet exemple avec Barak. Et tu vois que bien souvent, on est des pleutres, on ne dit rien, on laisse couler, on se laisse submerger, au lieu d'être rayonnant de toi. Mais Seigneur, augmente la foi en moi, augmente la foi en chacun de nous, Seigneur, pour que dans des circonstances que toi seul tu connais déjà, eh bien, on puisse avoir ce mot de relèvement, ce mot qui oriente vers toi, ou cette attitude tout simplement, qui montre qu'il y a quelque chose de vivant, de différent, et que ça vient de toi. Seigneur, merci de nous aider, tu vois combien de fois on passe à côté. Seigneur, merci pour ta patience quand on n'est pas au diapason de ce que tu aimerais. Mais Seigneur, que on puisse se réjouir de voir combien ça fait du bien à nous et aux autres de connaître et de croire ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Amen.